Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en tout cas sur votre émission sportive du lundi soir hein, sur Mon Paris FM, 19h-20h30. On va naturellement revenir comme on le fait depuis le 11 septembre dernier sur le mondial de rugby avec nos différents intervenants. Il s'est passé beaucoup de choses et on rentre dans une autre Coupe du Monde. On va naturellement donc vous décortiquer tout ça. Je salue donc celui qui est infidèle, qui nous accompagne pratiquement depuis le début de ce mondial, c'est Julien Combes. Bonsoir Julien.
Bonsoir à tous.
Ça va? Pleine forme?
Très bien.
Quel beau match ce week-end.
On en a eu quelques-uns encore.
C'est
magnifique.
On va pouvoir parler de tout ça. Et puis on est aussi ravis d'accueillir celui qui nous accompagne aussi depuis le début de ce mondial, c'est notre ami François Artigas. Bonsoir François, ça va?
Oui, bonsoir à tous.
T'as pris quelques jours de repos entre deux matchs de l'équipe de France, parce qu'il y a encore une belle fin de mondial.
Absolument.
Et puis fidèle à la tradition, on invite à tour de rôle des clubs. On a vu nos amis de Rambouillet, qui reviendront d'ailleurs la semaine prochaine. On a vu nos amis du PUC, on a eu le Stade Français féminin la semaine dernière, et ce soir on a donc le président du SCUF, un autre Julien Schwartz. Julien, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment, très brièvement, vous vivez ce mondial de rugby?
C'est une fête, une vraie fête. Depuis le début, l'ambiance est incroyable, ça réverbère dans tout Paris, dans le club. D'ailleurs, des fois, on a des problèmes d'effectifs parce qu'on a des joueurs qui sont aux quatre coins de la France, dans tous les stades, pour assister à tous les matchs de la Coupe du Monde, que ce soit les grosses affiches ou les rencontres avec les petits. Donc, y a vraiment un sentiment de... limite d'euphorie, tout le monde à la banane.
Voilà, et puis on aura une petite surprise dans cette émission, puisqu'à partir de 19h30, on aura un ancien grand ouvreur du 15 de France, Jean-Patrick Lescarbois, qui sera au téléphone, comme on avait fait avec Jo Mazo il y a une quinzaine de jours. On n'oubliera pas le foot aussi dans la dernière partie de cette émission. On a une belle semaine de Coupe d'Europe, il y aura plein de choses à dire, puis on parlera un tout petit peu de basket aussi, puisqu'il y avait un beau match hier à Bercy concernant donc le Paris Basket, et puis Malik, parce que c'est l'émission ensuite suivante, au bout du foot, eh bien nous viendra nous donner le programme de l'émission qui regarde le foot avec un autre regard, donc à partir de 20h30, et qui prolonge ce rendez-vous de Mon Paris Sport. Alors, on va revenir donc sur ces matchs le dernier week-end de ces phases de poule. D'abord, est-ce que vous êtes, vous le technicien, satisfait de l'ensemble de ce premier tour?
Alors, l'ensemble du premier tour, et encore ce week-end, encore de superbes affiches, vraiment du beau spectacle. Donc, on est dans la continuité de ce qu'on a vu les quatre premiers week-ends. C'est franchement génial. Il y a vraiment de la qualité qui est offerte.
Malgré les écarts, parce qu'il y a eu un bon papier de nos amis de l'équipe qui disait que sur ce mondial-là, il y avait plus d'écarts que sur les deux mondiaux précédents, c'est-à-dire 2019 et 2015.
Ouais, alors après, il y a quand même des différences de niveau entre certaines nations, comme entre le top 6 et le reste. Là, c'est vraiment, il y a du vrai décalage. Il y a des équipes aussi qui sont peut-être plus sérieuses dans l'approche de ces matchs-là aussi. Donc, ils prennent un peu moins à la légère aussi ces oppositions.
Les petites équipes,
Et donc, c'est vraiment des matchs aussi de préparation pour les phases finales qui arrivent à grands pas. Donc, franchement, du beau niveau, de l'engagement. Puis du plaisir aussi de voir jouer ces équipes, cette équipe du Portugal.
Alors justement, c'est la révélation de ce premier tour?
Ah oui, c'est la révélation, Franchement, c'est des belles performances, de l'engagement, une équipe on se posait la question en fait de passer cette Coupe du Monde à plus d'équipes et passer à 24 équipes. Et ça, c'est aussi peut-être un des arguments qu'on peut aussi avancer pour voir aussi ces équipes qui sont... en voie de développement et qui offrent du spectacle, qui sont bien préparés aussi pour offrir du spectacle. Donc Voilà, c'est
et comme ils ont gagné hier, c'est historique. Hein. Première, hier, c'est historique. Hein. Ah, ouais. Ils ont failli l'autre jour contre la Géorgie.
Match nul. Ouais. Et là, cette victoire est amplement méritée. Ouais. Amplement méritée contre des Fidjiens voilà, qui sont passés un peu à côté.
Inconstant, quoi.
Inconstant. Ah, ils sont revenus un peu dans des travers. Et voilà, comme on en discutait, voilà, c'est aussi une équipe qui, voilà, qui se met au niveau des équipes qu'elle rencontre aussi. C'est un petit peu dommage. Maintenant, je pense que contre l'Angleterre, ils vont montrer un autre visage, je pense.
François, ce premier tour du mondial, bilan positif, ce qui explique peut-être aussi les bons audiences de télé. Hein.
Ouais. On en parlera peut-être tout à l'heure. Les audiences incroyables.
Ouais, ouais.
Incroyables. Et là, pour revenir au Portugal, faut noter quand même qu'un certain nombre de joueurs de l'équipe de Portugal ont été formés en France ou ont joué en France. Donc, ce qui veut dire aussi que le championnat français sont très formateurs pour toutes ces équipes moyennes qui progressent d'année en année avec et le marqueur du dernier essai, Marta, était l'année dernière, lorsqu'il jouait à Dax, le meilleur marqueur d'essai de National. Donc voilà, ceci peut expliquer cela.
Oui, d'ailleurs, ça fera plaisir à Julien. On dit que le championnat français, c'est le meilleur d'Europe.
Ben, on l'a vu l'année dernière.
On l'a vu l'année dernière en Coupe d'Europe.
Donc, pour le moment,
avec tous les grands joueurs qui viennent jouer en France.
Non, mais pour le moment, je pense que le niveau est quand même très élevé. Voilà, il y a vraiment une approche aussi qui est faite différemment par les clubs aussi. Ils ont des vrais objectifs aussi sur ces championnats européens. Donc, c'est du haut niveau. Ça attire aussi, comme on l'a dit aussi, des joueurs aussi d'autres nations. On l'a toujours eu, hein, des Géorgiens, des Roumains. Maintenant, il y a ces pays aussi, voilà, ibérique, le Portugal, l'Espagne, des joueurs qui viennent dans nos championnats, top 14, de Pro D2. Et qui, voilà, c'est le championnat de Pro D2, c'est un vrai championnat avec un vrai niveau de compétition, donc qui permet des joueurs de progresser. Ouais. Et donc, ce qui amène à des nations aussi à progresser aussi.
Et puis, des entraîneurs aussi qui vont exporter leur savoir-faire à l'étranger. Voilà. Hein, comme
quoi, on a des bons entraîneurs, non ?
Oui, bien sûr.
Monsieur Lagisquet fait du bon boulot avec. avec le Portugal.
Julien, ce mondial, il vous plaît ?
Ah oui. Oui. Ouais. Il y a, même on parlait du Portugal, on voit la progression. Moi, j'ai trouvé qu'ils, sur les premiers matchs, ils n'avaient pas 80 minutes de fond. Il y avait des bonnes séquences, mais ils avaient du mal. Et puis à la fin, là, le dernier match contre le Fidji, c'est 80 minutes à fond. Après, ils ont tenté un coup. Tout le monde se disait, ça va être la Géorgie avec laquelle ils allaient essayer de gagner. Et puis on se disait, bon, les Fidji, ça va être plus compliqué. Et ben, ils n'ont rien lâché pendant 80 minutes. Alors que quand on voit leur premier match contre Galles, là, ça, voilà, ils ont eu du plus de mal à faire 80 minutes sur un niveau égal.
Pour un mondial plus important à 24 équipes, pardon. Non.
Je serais plutôt. Enfin, je sais pas. Je connais pas tous les enjeux, bien sûr. Mais moi, je serais plutôt sur la Coupe du Monde de rugby. C'est long. Ça dure 2 mois.
Oui.
Je trouve qu'il y a une question de tempo. Ça
sera pareil, hein, mais il y aurait 3 matchs ou 4 au lieu de 3 ou 2.
Si on était à 4 poules de 4, ça durerait 6 semaines. Après, ça resserrerait, il y aurait de la qualité tout de suite. Mais c'est vrai que quand on voit ce qui se passe sur cette Coupe du Monde, l'engouement, les stades pleins, même les supporters français, quand ils jouent mal contre l'Uruguay, tout le monde les soutient, oui, personne ne les siffle, je trouve ça incroyable. Donc, effectivement, la question se pose.
Oui, alors justement, François, on va parler des audiences télé, mais même les influences dans les stades, c'est archi plein. Hein.
Oui, c'est
ils vont être bénéficiaires, cette Coupe du Monde. Hein.
Je ne sais pas si elle va être bénéficiaire, je pense quand même. Hein. Ouais. Bon, le coût aussi a été important, hein, lorsqu'on sait tous les coûts de sécurité, etc., qui visitaient tous les stades, donc ça a aussi un coût. Maintenant, effectivement, l'ambiance est extraordinaire, hein, l'ambiance dans les stades, hors des stades, et là, on voit tout à fait la différence avec le football. Où les supporters de deux équipes, après, à la fin du match, se rejoignent, vont boire une bière ensemble. Un football, c'est quand même très rarement le cas. Et on le voit dans les audiences, par rapport au football et au match de l'équipe de France, où le rugby est très nettement, mais très nettement devant.
Ah oui ?
Oui.
Oui.
Par exemple, bon, si on parle donc des audiences au Beaufix, l'équipe de France de rugby n'a jamais été en dessous des 10 millions de téléspectateurs.
Sur une Coupe du Monde. Hein,
Alors, sur cette Coupe du Monde, là, avec 18 France-Namibie, qui était le match qui était le moins suivi, était sur France 2. Sinon, 11-8 France-Uruguay sur TF1. 15-4, bon, ça, c'est les matchs d'ouverture France-Nouvelle-Zélande.
donc avec un pic à 17 millions quand même, et celui de vendredi dernier, 13, un peu plus de 13, avec aussi un pic à 15 millions. Donc ce qui est quand même remarquable pour des matchs, disons, de qualification. Et lorsqu'on fait le rapprochement avec le football, par exemple, le match France-Allemagne, donc a fait à peine 5,6 millions. Et le match France-Irlande, qualificatif pour l'Euro 2024, a fait 6,7 millions. Donc c'est pratiquement la moitié des audiences du rugby pour des matchs qualification. Donc un match important, ce n'est pas des matchs amicaux. Donc c'est, et aussi ce qu'il faut souligner, c'est que les autres matchs où il n'y avait pas l'équipe de France ont fait aussi d'excellents scores, avec 5 millions pour Irlande-Écosse, première audience de la soirée, et même hier 3,5 millions pour Fidji-Portugal sur M6.
Mais François, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas lié à l'événement, parce qu'on sait que les grands matchs de foot de l'équipe de France, elles font des audiences similaires pour le rugby par exemple. L'an dernier, on a eu des audiences assez grandes pour le mondial de foot.
Oui, effectivement, l'audience record, c'est la finale, donc avec 24 millions de téléspectateurs. Ce sera peut-être battu si la France, et on le souhaite, va en finale de ce mondial, de cette Coupe du monde de rugby. Mais quand même, on voit une progression et on voit une certaine désaffection pour le ballon rond, peut-être dû au fait qu'effectivement, il y a beaucoup de violence autour des matchs. Et je pense que les gens préfèrent peut-être aller voir des matchs de rugby où ils sont plus en sécurité. Et il y a le fait qu'il y ait une ambiance autour, le fait qu'il y ait une convivialité qui n'existe pas non plus toujours. Il ne faut pas non plus croire que c'est parfait. Mais il y a une image de rugby qui est bien meilleure à l'heure actuelle que l'image du foot.
C'est pareil pour les parents qui viennent vous voir pour inscrire leurs enfants dans votre club. Il n'y a pas une petite réticence, c'est-à-dire, c'est un sport très physique, on en parlait avec, je crois, le PUC. C'est très physique, il faut prendre des précautions.
C'est pas un sport dangereux. Non, pas trop. On fait beaucoup de pédagogie, on explique... On explique aux parents que le rugby qui est enseigné, qui est joué dans les catégories jeunes, c'est pas celui qu'on voit à la télé. Donc, et puis de toute façon, il y a des journées portes ouvertes avec beaucoup de pédagogie et puis des mises en situation où on explique et généralement ça passe. Après, les parents ils ont bien conscience que c'est pas le même rugby. Et puis, ils sont vraiment très attirés par les valeurs du rugby, sur les notions de solidarité, d'amitié avant, après. Et puis, peut-être aussi cette envie de montrer à leurs enfants la rudesse de la vie, le sport de combat, mais qu'après, ça se finit par un jus de fruits ou des rigolades après. Voilà, c'est ça.
Après, je voulais dire aussi que la France se mobilise aussi. La fédération française se mobilise par rapport au nombre de téléspectateurs aussi. Les clubs jouent le jeu aussi. Il y a de nombreux clubs en fait qui retransmettent avec des écrans géants.
Ah oui, ça c'est important. Plus qu'en 2007, je trouve.
C'est ça, complètement. Ah, oui. Donc il y a une mobilisation aussi de tous les clubs français et des dirigeants français aussi. Moi je vois à Massy, il y a des écrans géants. Oui. À la CBB, il y a des écrans géants. Ils sont à 2000, 3000 personnes aussi qui regardent ces matchs-là. Donc c'est vrai que c'est national quand
même. Même dans les petits villages, on voit des affiches comme quoi telle soirée de tel match devant écran géant. Bon, on va revenir sur ce résultat, les derniers donc de ces phases de poule avant d'entrer dans une autre Coupe du monde, voici en parler. Nouvelle-Zélande Uruguay 73-0 et puis la France qui bat l'Italie 60-7. On s'attendait quand même pas à un score aussi net pour l'équipe de France face à l'Italie.
Non.
Bon, une victoire, oui. Mais 60-7.
Ben, ils ont quand même pris quand même pas mal de points contre la Nouvelle-Zélande. Hein, donc, un score en plus important. C'est vrai qu'on se posait des questions. On pensait plutôt qu'ils avaient éventuellement lâché le match contre la Nouvelle-Zélande et nous donner un peu plus de fil à retordre là, contre nous. Mais non, en fait, on a fait quand même un match très sérieux. Dans l'ensemble, hein, sur tous les versants offensifs, défensifs, il y a eu vraiment de la discipline, de la maîtrise du jeu. Une charnière qui a conduit l'équipe de France aussi, vraiment avec de l'intelligence. Mais c'est quand même fait rare hein, de mettre un score à l'Italie. C'est la première fois qu'on fait ça. Donc c'est quand même voilà un exploit quand même.
Donc, pas de surprise, la France qui termine première avec 18 points devant la Nouvelle-Zélande, 15 points. Les deux équipes donc, qui joueront les quarts de finale. Troisième, Italie, 10 points. Quatrième, Uruguay, 5 points. Et cinquième, Namibie, 0 points. Allez, dans le groupe B.
Alors, juste à noter quand même, Penaud, Damien Penaud.
Oui, oui, bah, bien sûr.
35e ouais, essai. Ouais,
non, mais, il se rapproche.
Non, mais t'as raison de le dire.
35e essai, ouais, 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 3 points de Serge Blanco. 47 sélections, hein, ouais, je notais, ouais. Serge Blanco, 90 sélections.
Ouais, ouais, ouais.
Donc,
ça voilà. va être fait bientôt.
Je pense, dans pas longtemps.
Ouais, ouais.
Mais j'espère d'ici la, ouais. d'ici la fin.
Irlande-Écosse, ça c'était le match phare du groupe B. Il n'y a pas eu de suspense finalement, 36-14 hein, pour l'Irlande, alors que le Tonga a aussi battu la Roumanie 45-24. Donc Irlande qui termine première de la poule à 19 points, devant l'Afrique du Sud, deuxième 15 points, troisième Écosse 10 points, quatrième le Tonga 5 points et cinquième la Roumanie 0 points. On ne s'attendait pas aussi à un score aussi large hein, de la part des Irlandais.
Ouais.
Comme la France, hein, quelle démonstration messieurs hein.
Ben, c'était un huitième de finale, hein. On avait annoncé huitième de finale pour l'Écosse, ben, qui n'a pas eu lieu en fait. Voilà, complètement. L'Irlande en toute maîtrise aussi, pareil comme l'équipe de France. Ça a été vraiment voilà, impressionnant, que ça soit pareil hein, sur le secteur défensif, là, cette maîtrise de la défense, cette discipline qu'ils peuvent avoir, voilà, avec un Sexton aussi magnifique. Non, ils sont impressionnants, ils ne sont pas numéro un mondial pour rien. Ils l'ont montré contre l'Écosse et là, je pense qu'ils mettent voilà, la barre très haute. Là.
Moi, je ne serais pas aussi sévère avec l'Écosse, qu'ils ont quand même marqué deux essais en l'espace de 2-3 minutes. Et je pense qu'ils ont pris un peu le match à l'envers, qu'ils auraient dû le prendre différemment, parce que mettre quand même deux essais à l'Irlande en l'espace de 3 minutes, ça prouve quand même qu'ils avaient une...
Ils ne ferment jamais le jeu de tout temps. C'est l'équipe qui n'a jamais fermé le jeu. Hein. Ouais, c'est l'équipe qui est joueuse. Oui.
Ouais, après il y a 36-0, donc
ouais,
je pense que
peut-être il y a eu un petit relâchement.
Il y a un relâchement parce que quand on revoit le début du match, c'est à sens unique, hein, ça fait mal et en plus quand même les Irlandais ils scorent les deux premiers essais sur deux premières mains avec un timing incroyable. Mmh. Ils ont un côté néo-zélandais des années 80-90, je trouve. Ouais. Ils sont
Alors, on va en parler quand on va aborder donc, le programme des quarts de finale, mais l'équipe de France semble sans faille et l'Irlande semble sans faille.
Et donc, en finale, les deux en finale. Alors.
Après. Il y a un bon côté français, l'Irlande aussi.
Alors, ils ont
un
quelques blessés
moins,
là, sur le match de l'Écosse, là, les deux ailiers qui sont blessés, qui sont quand même des armes fortes de l'équipe. Donc, je pense que, ça devrait jouer. Mais voilà, il faut aller sur la. Je suis plutôt d'accord avec toi, sur la durée aussi. Il faut voir cette équipe-là, comment elle va réagir. Là, il y a eu de la rotation sur le match de l'Écosse. Ils ont fait quand même tourner. C'est pour ça aussi assez rapidement. Mais bon, voilà, là, c'est franchement prendre l'Écosse. Si on peut la prendre en finale, c'est très bien pour nous. Hein. C'est voilà. Parfait.
Alors, dans le groupe C, le Pays de Galles, donc, qui s'est très largement imposé 43-19. Et puis le Portugal, on en a parlé, donc, qui a fait l'exploit 24-23 devant les Fidji. Le Pays de Galles qui s'impose avec 19 points. Devant les Fidji, deuxième, 11 points. Ça a été ric-rac quand même. Hein, plus 84 au goal average. Troisième, l'Australie, qu'on avait déjà condamné peut-être un peu trop vite, qui termine donc troisième avec 11 points, mais simplement plus 5. Quatrième, Portugal, 6 points. Et cinquième, Géorgie, 3 points.
Voilà. Ah non, bon. Ouais. Voilà, les Fidji, on comprend pas trop. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que l'Australie, je pense qu'elle peut être très, très déçue. Oui.
Ça, c'est quand même l'événement parmi les grosses nations. C'est celle qui reste à la maison après le
premier
tour.
Oui, mais bon, c'est quand même depuis 2 ou 3 ans, c'est plus une nation phare aussi quand même au niveau international. Dans les Four Nations, ils n'ont pas forcément des bons résultats. Donc, il y a les Fidji, l'épouvantail qui est arrivé, qui a mis fin, en fait, à la qualification de l'Australie.
Alors, groupe D, l'Angleterre qui a battu d'un seul petit point les Samoa, donc 18-17. Ça a été un match aussi spectaculaire entre l'Argentine et le Japon, avec des Japonais qui ont un petit peu coincé sur la fin. Donc, victoire de l'Argentine 39-27. L'Angleterre, donc, qui termine premier de la poule 18 points, devant deuxième l'Argentine 14, troisième le Japon 9 points, quatrième les Samoa 7 points et cinquième le Chili 0 points. Vous avez remarqué, quatre équipes de l'hémisphère nord qui terminent toutes les quatre. À la tête de leur groupe, ça veut dire quelque chose.
Ta réflexion aussi sur le niveau aussi de la compétition du top 14, c'est qu'aussi on a des très bonnes compétitions au niveau national, que ça soit dans les différents pays. Donc Voilà, ça paraît logique. Je pense que les fédérations, elles ont bien préparé aussi leur équipe nationale pour en arriver là. Donc ça veut dire que le niveau, voilà, on est présent.
L'autre Julien.
Mais moi, ouais. C'est plutôt, je pense aussi, le fait qu'en Europe, ça joue des championnats très serrés, notamment le top 14 ou la Coupe d'Europe, il y a des matchs au couteau. Et on sait que le Super 15, il n'y a pas de descente. Et on voit que ça a un impact, notamment c'était une des raisons avancées pour lesquelles les Australiens ont déçu et ont échoué. Mmh. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas l'air de connaître voilà, l'expérience des matchs tension, coup près, où il faut aller chercher la gagne. Et on voit au niveau mental, sur la philosophie des matchs, comment ils lâchent ou ils explosent carrément, puisque contre le Pays de Galles, ils ont pris quand même 40 pions.
On s'attendait à un match beaucoup plus serré. Hein.
Voilà. Donc je pense que c'est là qu'il y a peut-être quelque chose à gratter, parce qu'on voit sur les préparations mentales, les Irlandais sont... Voilà, et les Français, les Anglais, ils ont un peu plus de problèmes avec leur championnat et puis leur équipe nationale. J'ai l'impression qu'Eddie Jones leur a lavé un peu la tête et ils ont du mal à s'en remettre. Mais voilà, et les Écossais, ils lâchent rien, même si effectivement ils ont un beau baroud d'honneur, ils marquent deux essais, ils ont quand même Greg Townsend qui est un sacré entraîneur, et on voit sur l'attitude, sur le mental, ça continue, ça ne lâche rien. Et je pense que c'est un point à noter là-dessus.
François, il peut y avoir un événement, quatre équipes de l'hémisphère nord en demi-finale, ça peut le faire, puisqu'on aura donc Galles-Argentine samedi à 17h à Marseille, avant un choc Irlande-Nouvelle-Zélande à 21h au Stade de France, et puis dimanche, Angleterre-Fidji 17h toujours à Marseille, et France-Afrique du Sud donc dimanche à 21h. On peut avoir quatre équipes de l'hémisphère
oui, sur
nord,
le papier.
Sans le cadre, non mais oui.
Mais je ne crois pas trop, d'accord. Franchement. Oui. Je pense qu'il y a eu quand même des stratégies au niveau donc, de ces matchs de qualification pour ne pas tomber sur un adversaire. Oui, oui. Bon. Ce qui était peut-être le cas Irlande Springboks, voilà.
Moi, j'y crois.
Hein. Oui, tu crois, oui, parce qu'en 2015, ça avait fait l'effet inverse. Hein. Quatre équipes de l'hémisphère sud avaient été dans le carré d'as. Hein.
Non. Parce que
c'est un événement quand même. Hein.
On ne va pas se voiler la face. Hein. Oui. Là, il y a deux quarts de finale, donc des Français, Africains, Irlandais et nos amis de la Nouvelle-Zélande, c'est des demi-finales. Voilà,
il faut rester à la maison, hein. Faut pas sortir, faut regarder les matchs.
Ah non, là, faut aller voir ces matchs, faut regarder ces matchs. Donc
vous
c'est
faites
vraiment.
Rien samedi, vous faites rien dimanche.
Des demi-finales avant l'heure, quand même, Yvon. C'est vraiment des demi-finales avant l'heure. Donc. Mm-hmm. Donc pourquoi pas, ces quatre équipes.
Ouais. Parce que bon, Angleterre-Fidji et puis Galles-Argentine, en principe, ça ne devrait pas poser problème.
Ouais, mais l'Angleterre, justement, par rapport à ce match-là, c'est assez surprenant
encore.
Enfin,
ils sont pas
surprenant et pas, parce qu'ils sont souvent inconstants dans leur performance. Donc, c'est quand même un peu inquiétant face à des Fidji qui vont être aussi survoltés. Après, on a un Owen Farrell, pareil aussi, qui dépasse M. Wilkinson aussi en nombre de points marqués sur l'équipe de la Rose. Donc voilà, ça va être un beau match aussi. Ça va être dur, mais un beau match, je pense avoir. Quoi.
Et puis, François, on attend Dupont. Aujourd'hui, il y a une nouvelle.
Ben, apparemment, il peut reprendre l'entraînement. Il pouvait reprendre le match, la compétition. Moi, j'ai lu et j'ai cru comprendre que c'était uniquement l'entraînement.
Oui, l'entraînement.
Donc à voir après, disons, dans 2-3 jours, si... S'il est apte, match après. Est-ce que vaut mieux mettre un Dupont qui sera peut-être à 70% ou un autre joueur qui sera à 100%? Je ne sais pas.
Julien, qui décide? Le toubib, le joueur, le coach ou tout le monde ensemble?
Tout le monde ensemble. Je pense que le joueur, il est quand même au centre. Donc
il a envie de jouer, mais c'est normal. Mais bon,
je pense qu'il a la tête sur les épaules pour prendre les bonnes décisions. Il a l'ensemble du staff qui va l'aiguiller. Mais bon, c'est vrai que c'est un quart de finale. Moi, je pense qu'il n'y a pas de risques qui vont être pris. La charnière a montré quand même ses preuves, là, Loukou et Jalibert. Ils ont été quand même performants.
Quel match, Jalibert!
Donc voilà, bon, à voir.
Ouais, je pense c'est vrai qu'il doit lui pousser. Après, le type de blessure qu'il a, doit militer, je pense que pour que lui, il doit pousser. Mais après, c'est vrai que moi, je pense qu'il jouera, moi.
Oui. Ils vont quand même.
Je pense. Hein. Ouais. Je pense que vu la blessure, on ne voit pas.
Ce serait quand même miraculeux. Hein. Franchement, ah bah oui, la médecine fait des efforts. Hein.
Si ouais, vite. Ouais, ouais. Ah. Bon, maintenant, il avait ouais. le meilleur chirurgien. Donc, mm-hmm. voilà, donc ils n'avaient pas de meilleur spécialiste pour ce type, tout du moins en France, ce type de blessure. Donc, je pense que s'il lui a donné le feu vert, mm-hmm. ça devait être en connaissance de cause. Parce que sinon, il a quand même une responsabilité. Quelque part, même s'il n'a pas une obligation de résultat, une obligation de moyens et de donner aux joueurs quand même un avis éclairé et autorisé. Mmh. Donc, s'il lui a dit oui, effectivement, si ça se passe bien lors des entraînements, ben, pourquoi pas, ou quitte à le faire remplacer au bout de... peut-être le faire jouer une mi-temps ou... en fonction de ce qui va se passer aussi.
Oui, mmh. si ça se passe mal, il y a Maxime Loucou qui a voilà. fait une belle performance contre l'Italie et qui rentrera peut-être plus tôt. Mmh.
Bon, François, avant d'appeler donc notre ami le Scarboura, on va écouter l'hymne de l'aviron ah oui. bayonnais.
Hein. La Pena Bayona. Oui.
Voilà, c'est
donc,
ça.
L'hymne de ouais, Bayonne.
Ouais, ouais. Alors, avant de lancer la musique, il y a peut-être une petite histoire.
Oui, c'est-à-dire que ouais. tout le monde pense que c'est un hymne qui ouais. date du début de l'aviron bayonnais. Pas du tout, ça date d'une trentaine d'années. C'est en 1992, une chanson qui a été composée par un Autrichien lors de vacances en Grèce. Il ne savait pas quoi faire, il a composé une chanson.
Et c'est arrivé à Bayonne.
Après, après c'est ouais. passé par l'Amérique du Sud, où ils en ont fait un peu aussi l'hymne d'un certain nombre de clubs, de fêtes, etc. Et c'est arrivé à Bayonne en 1992. Et le speaker du stade Jean Daugé, qui est le stade où jouent les Avirons bayonnais, Dominique Erlaz a fait les paroles, a écrit les paroles donc de ce qui est maintenant l'hymne officiel de l'aviron bayonnais et qu'on entend dans tous les stades. Hein, pratiquement, voilà. Maintenant, c'est un hymne international.
Et surtout voilà l'hymne de la troisième mi-temps.
Oui, c'est
surtout
ça.
La troisième mi-temps. Voilà.
C'est clair. Eh ben, on va l'écouter maintenant. Allez, on y va et ensuite, on retrouvera donc Jean-Patrick Lescarbois.
Notre cher petit Bayonne, il est une peña, la peña Bayona. Ils portent fièrement partout le foulard bleu et blanc. À Daxo, à Narbonne, on ne voit plus que ces gars-là qui ont dans le cœur le cher joueur du rugby roi. À Jean Daugé ou bien partout à l'extérieur, sur tous les stades enfiévrés, elle nous met tant d'ardeur. C'est la Peña qui crie sa joie sur ces terres-là. Allez, allez. C'est la Peña Bayona, on est tous là, allez les gars, encore une fois. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bayonnais, jouez au rapide des cartes CDC. Dans notre cher petit Bayonne, il est une peña, la peña Bayona. Il porte fièrement partout le foulard bleu et blanc. À Daxo, à Narbonne, on ne voit plus que ces gars-là. Joueurs brillent souvent, la victoire est au bout. Élu de bleu et blanc, sa vie et la fête est partout. C'est la Peña qui crie sa joie sur ces terres-là. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bayonnais. C'est la Peña Bayona.
passé. On applaudit à vos exploits et c'est gagné.
Voilà, et ben comme promis, on a Jean-Patrick Lescarboura au téléphone. Jean-Patrick, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, merci en tout cas donc pour votre disponibilité. Vous avez vu, on a entendu donc Peña Bayona.
Peña Bayona, oui.
Ouais, hein
bon. Oui, oui, j'étais en train d'imaginer si vous aviez eu Serge Blanco, je crois qu'il aurait raccroché. En étant bien haut. Mais moi, le Dakwa, ça va, ça passe.
Voilà, c'est ça. Comment vous vivez ce mondial, Jean-Patrick? Il vous plaît?
Je le vis comme un supporter, oui. Comme un supporter assidu de l'équipe de France, d'une part, ouais. Et puis comme un amoureux du rugby que je suis en regardant un peu toutes les rencontres.
Mm-hmm. Et vous trouvez le niveau comment, d'une façon générale?
D'une façon générale, bon, il y a des matchs qui ont été vraiment déséquilibrés, effectivement, mais il y en a d'autres, notamment l'Irlande-Afrique du Sud, qui a été d'un niveau,
oui.
D'un très, très, très haut niveau. Bon, les matchs de l'équipe de France, certains aussi. Donc, bon, on voit un peu de tout, mais dans l'ensemble, le niveau de jeu, est, à mon avis, a évolué énormément par rapport à la dernière compétition il y a 4 ans. Hein.
Ah oui. Bon, ça va le faire cette année pour notre 15 de France?
Ben, ce qu'on souhaite tous. Bon, c'est vrai que on a quand même été convaincant sur cette première partie de Coupe du Monde, avec un effectif, bon, malgré les absents que tout le monde connaît, eh bien, malgré ces joueurs quand même de grande qualité, on a quand même pu monter des équipes d'un très très gros niveau, et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on se retrouve en quart de finale logiquement mérité. Et le plus difficile commence.
Oui, bien sûr, c'est notre Coupe du Monde, hein, comme on dit, qui commence. Hein.
Ben oui, ce sont les matchs. Bon, même si contre l'Italie, c'était un match coupé, mais bon, on sentait bien qu'il y avait une différence. Bien évidemment, qu'il faut toujours respecter les adversaires, mais on sentait quand même qu'il y avait une différence avec l'Italie. Donc c'était, disons, un match qui n'était pas joué d'avance, mais on avait quand même un avantage sur les Italiens. Aujourd'hui, on rentre vraiment au cœur de la compétition avec bon, mais des équipes de très haut niveau.
Mmh. François?
Oui, Jean-Patrick,
vous
êtes le recordman du nombre de drops en équipe de France avec 15. Là, il n'y en a pas trop lors de ce mondial. Est-ce que c'est maintenant, voilà, on a oublié cette phase de jeu, est-ce qu'on est passé à autre chose, ou est-ce que c'est l'arrivée du professionnalisme qui a changé?
Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu, on a surtout des matchs qui n'étaient pas équilibré déjà, il y en a quand même beaucoup plus que de matchs équilibrés, et donc dans les matchs déséquilibrés, on a plutôt tendance, si vous voulez, à enfoncer le clou en faisant du jeu, en faisant plusieurs temps de jeu, en allant chercher des pénalités, en allant chercher des pénaltouches, bon, plus que dans les matchs équilibrés où un drop peut faire la différence. Je pense effectivement que ça va être une arme qui va être beaucoup, beaucoup plus utilisée, vous allez le voir, dans les matchs qui vont arriver de quart de finale, je pense. Je pense.
Et puis il y a un joueur à Bayonne là qui l'utilise pas trop mal. Là.
Ah oui,
non mais là lui il est exceptionnel par contre. Hein. Ah, oui, c'est vrai.
Lopez.
Ouais, Camille Lopez.
Voilà,
oui, ça, Camille Lopez, combe, oui, hein. Camille c'est un maître dropper, ça c'est sûr.
Julien, une autre question à
Ah bah non, maintenant, bah, je sais pas, moi je voulais savoir Jean-Patrick où t'en étais dans le rugby, comment tu t'investissais,
beaucoup occupé de l'Union Sportive Lacroise. Ouais. Je suis aujourd'hui, disons, dirigeant et je vais surtout voir les matchs, les rencontres. Je suis beaucoup moins responsable, j'ai beaucoup moins de responsabilités aujourd'hui. Mais bon, on suit ce club, mon club de cœur pour lequel j'ai joué pendant une quinzaine d'années. Et on a la chance de pouvoir revenir dans le monde professionnel en Pro D2 en faisant un début de saison qui nous a fait un peu peur au début et qui maintenant nous rassure parce qu'on a quand même battu des équipes comme Colomiers et Grenoble et on est classé 11e aujourd'hui, donc c'est quand même encourageant. Alors on a un petit match sympa vendredi contre le leader Vannes, On s'accroche et puis voilà, et on est toujours supporter de ce club. Voilà, au niveau rugbyistique, sinon, je me dis que c'est impossible la USADAX.
Voilà, il y a aussi un président donc de club parisien du SCUF qui va vous poser une question. Allez-y, Julien.
Oui.
Ouais. Enchanté. Ouais.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Oui. Mais moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est effectivement, vous avez eu un début de saison assez difficile, mais là, vous remontez bien la pente.
Comme je le disais, c'est-à-dire que le niveau de national et de Pro D2, la différence, elle est quasiment la même entre la Pro D2 et le top 14. Pour les clubs qui montent, comme le nôtre, ça a été déjà très difficile de se structurer en très peu de temps. Et le premier match nous a énormément surpris. On a joué Aix-en-Provence qui va jouer très certainement les 6 premières places, les passes qualificatives, voire la montée, parce qu'il y a eu quand même un gros recrutement à Aix. Quant à nous, le premier match, on a pris 40 points à la maison, ça a été une surprise quelque part quand même. Le second est allé à Rouen, on a pris 30, donc on se disait là ça va être très long cette saison. Et puis finalement, Jeff Dubois avec tout son staff a remis un peu d'ordre, remis de la motivation, et ce match de Grenoble qui était le troisième match championnat nous a fait énormément de bien. Et on a battu le Grenoble, c'était quand même pas fait dans la mesure où l'année dernière ils avaient joué la montée quasiment. Et puis voilà, donc on revient dans ce championnat avec aussi des éléments qui étaient blessés, bon, qui vont faire leur retour. Donc on revient avec des ambitions qui est de ne pas terminer avant-dernier ou dernier, qui serait synonyme de relégation. Voilà. Donc on va essayer de jouer les maintiens tant qu'on peut, le faire comme on le fait aujourd'hui. Je pense que bon, ça sera quelque chose qui peut être un objectif.
Avec l'arrivée du professionnalisme en 95, est-ce que justement cette arrivée n'a pas sonné le glas en place forte du rugby, comme Dax, comme Narbonne, comme Bourgoin, comme Mont-de-Marsan, avec des budgets maintenant?
Oui, encore que Mont-de-Marsan se débrouille un petit peu mieux que nous. Mais les villes comme les nôtres, ce sont des villes moyennes. Bon, et c'est vrai que le cœur, le nerf de la guerre aujourd'hui, entre guillemets, parce qu'on parle pas de guerre, mais le nerf, c'est l'économie, c'est que financièrement, il faut trouver des ressources. Nous, on a une petite ville, voilà, comme certaines autres qui n'ont pas pu suivre le wagon, dans la mesure où on n'avait pas assez de moyens, parce que qui dit professionnalisme dit quand même un minimum de moyens. Mmh. Voilà, malgré l'aide de la ville de Dax aujourd'hui, encore en plus, notamment, malgré l'aide de partenaires aussi, bon, écoutez, on n'arrivait pas à avoir un budget qui nous permettait de rester dans l'élite de la Pro D2, quoi. Donc voilà. Mais enfin, ceci dit, aujourd'hui, on revient et puis on espère quand même y rester un petit moment.
Bon, pour finir, Jean-Patrick, malgré tout, la notion de fête, elle reste encore importante dans le rugby moderne.
Pardon, je n'ai pas compris. Pardon.
La notion de fête, elle reste encore importante dans le rugby moderne.
Ah, la notion de fête.
Oui. Ça reste quand même important.
La notion de fête.
La troisième mi-temps, elle existe quand même.
Oui. Non, mais heureusement. Non, mais il faut que ça existe. Alors certes, le milieu professionnel fait que bon, aujourd'hui, les garçons font de leur passion un métier. Donc effectivement, il y a quand même un peu plus de contraintes d'hygiène de vie. Mais la troisième mi-temps, elle existe avec les joueurs, avec le public, vous le voyez avec cette Coupe du Monde. Oui. Il y a quand même une attraction énorme. Les stades sont pleins. Mmh. Et puis il y a des ambiances magnifiques dans toutes les villes où se pratique ce sport aujourd'hui. Donc non, par rapport à ça, je crois que bon, ça montre certaines valeurs éducatives, festives, mais toujours dans le respect de chacun. Et ça, c'est très important. La fête, oui, mais la fête bien, quoi. La fête sympa.
Voilà, c'est effectivement ce qu'il faut garder. Merci beaucoup, Jean-Patrick, en tout cas.
Merci à vous.
Allez, à très bientôt.
Bonne soirée, au revoir.
Voilà, donc pour Jean-Patrick Lescarbois, c'était la petite surprise qu'on vous a donc réservée pour cette émission. Bon, alors, au SCUF, comment ça se passe alors cette saison?
Eh bien, ça se passe très bien.
Combien
puisque, alors, nous allons vers entre 630 et 650 licenciés.
Donc, on va quand même rappeler que le SCUF, c'est un club omnisport, hein, comme le Stade français, comme le PUC.
Effectivement.
Vous êtes un petit peu dans l'ombre de ces deux clubs, j'allais dire prestigieux.
Oui, bah, oui. Enfin, en termes de renommée et surtout de palmarès.
Surtout ça. Oui.
Surtout ça, mais après, chaque club a son destin. Et c'est vrai que bah, le Stade français et le Racing ont évolué et sont devenus des clubs majeurs professionnels et multi-champions de France, alors que le SCUF est resté, on va dire, viscéralement amateur.
Alors, on va rappeler ce que c'est que le SCUF. Hein,
c'est le Sporting Club Universitaire de France.
Voilà. Ça a commencé avec donc, une base universitaire un peu comme au PUC.
Absolument. Oui. Absolument. Et après, ça a évolué. On a de nos jours plutôt un mélange de personnes, effectivement, des jeunes étudiants, mais aussi des provinciaux qui montent. Voilà, on a une bonne réputation de convivialité. Et puis aussi, on a une formation, puisque c'est vraiment l'ADN du club, la formation, une forte une volonté d'excellence dans la formation de nos joueurs, mais aussi de nos éducateurs.
Quel est le sport le plus important au SCUF ? Est-ce que le rugby est le sport numéro un, non ?
Au SCUF, c'est historiquement le plus... avec l'histoire du bouclier de Brennus.
Justement, François va nous le dire, hein, l'histoire du bouclier de Brennus.
L'histoire, je ne la connais pas complètement, mais Charles Brennus, celui qui est à l'origine du bouclier, ça a été fait pour le SCUF. C'est quelqu'un du SCUF.
Oui, c'est ça.
C'est le fondateur. C'est Charles Brennus, c'est le fondateur du SCUF à qui Charles de Coubertin a demandé de créer le trophée du champion de France. Voilà. Pour la première finale de 1892.
Vous voyez, Julien, quand vous ramenez le bouclier de Brennus.
Je l'ai touché. Ouais, très bien.
Et peu de gens, ça, c'est dommage qu'on ne rappelle pas un peu cette histoire. Ce n'est vraiment pas aux gens de bouclier de Brennus. Bon, un certain nombre savent que c'est le trophée qui récompense le titre de champion de France de rugby. Mais bon, peu de gens sont capables de dire que, en fait, ça vient du SCUF. Et SCUF, un club... où a été licencié Alfred Helluert, qui était vice-champion olympique de rugby à 15, bien sûr, et président de la fédération.
Mmh. Voilà, donc un club quand même prestigieux. À base historique. Hein.
À base historique, et puis grâce à la Fédération française de rugby et à la Ligue depuis, je crois, 1984... nous avons la chance de pouvoir, alors jusqu'à récemment, remettre le bouclier au vainqueur. Et puis, depuis, je crois, une dizaine d'années, le protocole a changé. Et donc, ce sont deux jeunes du SCUF. Alors, à la base, c'était deux juniors qui présentaient au Stade de France le bouclier de Brennus. Et depuis 3 ans, avec l'avènement du rugby féminin, c'est... une cadette et un junior qui présente le bouclier, et donc ça nous permet d'avoir chaque jour samedi soir de juin d'avoir notre visibilité.
Donc si le Stade français est champion de France en fin de saison,
Julien.
On
l'a déjà remis au Stade français.
Petite anecdote, moi j'ai une photo dans mon bureau d'un titre de champion de France avec une photo avec le bouclier, donc deux jeunes du SCUF, et ils avaient noté sur leurs mains les initiales du SCUF, et donc on voit en SCUF en gros sur la photo du titre de champion de France des Stade français.
Ce qui n'avait pas plu à tout le monde.
Non, ce qui n'avait pas plu à tout le monde, ça, exactement.
Donc, le rugby reste le sport le plus important.
En termes de licenciés, non. Le SCUF a une très grosse section de natation avec des titres, un très bon niveau. Je serais incapable de vous dire combien, qui, quoi, comment, mais il est très réputé. Et aussi, il y a des sections telles que le tennis qui sont en nombre important, puisqu'on est, je crois, près de 500 licenciés. Donc, il y a 11 sections. On a une section aussi athlétique qui vient d'arriver, et on vient d'intégrer une section handball.
Et entre vous, entre présidents des différentes sections, vous arrivez à vous voir, à communiquer, voire même à faire des actions communes. Je sais bien que ce n'est pas toujours facile.
On n'est pas nombreux, donc en fait, on est très absorbés par les tâches de chaque section respective. Effectivement, on se croise lors de conseils d'administration ou de réunions prévues, des présidents de sections prévues à cet effet, mais on est assez tourné vers nos occupations. Après, on essaye de créer quelques passerelles, comme par exemple avec la section athlétisme. On va essayer de développer des rencontres pour que nos jeunes soient un peu formés techniquement par les éducateurs de l'athlétisme pour avoir des courses plus efficaces.
Donc, vous êtes combien d'équipes engagées en championnat, finalement ? Combien vous êtes ?
Alors, on est... Une vingtaine.
Ouais, une bonne
voilà,
vingtaine.
En plus, avec le, voilà, les succès qu'on a et oui. notre bon travail de formation, on a deux équipes en cadet, deux équipes en junior. Donc, on est 60 par catégorie. On est juste, sauf en senior, ouais. on est 120. Et en moins de 6 ans, on est 25.
Ouais, donc, une petite école de rugby aussi.
Ah bah une grosse école de rugby plutôt.
Puis fait, c'est parce que ça, on commence très jeune quoi. Voilà.
Voilà. Oui, voilà, c'est vrai que ça commence très jeune. On a intégré depuis 2 ans les moins de 6 ans et voilà l'école de rugby du SCUF, elle fête l'année prochaine ses 100 ans puisqu'elle a été créée en 1924. Voilà. Et donc elle est voilà sur toutes les catégories. On a une soixantaine de licenciés. Voilà.
Et on en parlait avec Georges Coudan la semaine dernière. Le rugby féminin.
Vous avez le rugby féminin. Des jeunes filles qui jouent. Effectivement, on a une catégorie de minimètres à part entière.
Minimètres.
Des minimètres. Ouais. On appelle ça les moins de 15 ans. Les moins de 15 ans. Voilà. Ouais. On a une catégorie avec 25 joueuses grâce à un partenariat avec un collège de Saint-Denis, le collège Iqbal Massy. Et en cadette, donc c'est les moins de 18 ans, on est en entente avec Bobigny, puisqu'on avait réussi à développer, mais le Covid a un peu cassé la dynamique et depuis on a du mal à retrouver. Et en senior, on est, après avoir fait une entente avec le Port, qui est un club parisien pendant 10 ans, on a mis fin à l'entente pour essayer de relancer une catégorie senior en nom propre.
Alors ça tombe bien parce que c'est un club que j'ai contacté, je laisse des messages, personne ne répond. Voilà, donc après
ils ont une
monsieur Machado.
Ouais, ah,
oui,
et puis
bah j'ai les
Non mais après il est pris sur la Coupe du monde aussi,
c'est. Ah, et puis okay. ils ont une nouvelle équipe de dirigeants et de dirigeantes plus jeunes qui pourront prendre la relève ou aider José.
Alors, où est-ce que vous jouez vos différentes équipes? Un petit peu partout dans Paris?
Alors non, on a principalement un stade auquel on est, c'est Porte de Saint-Ouen, c'est le stade Max Rouzier, rue André Bréchet, dans le 17e, Porte de Saint-Ouen.
Donc là, c'est votre siège, hein, 17e, il faut le dire.
Voilà, on est...
Au départ, vous êtes un club du 17e, quoi.
Oui, on est principalement, on était rue Gautet dans le 17e, maintenant on a un siège, on va dire à nous, qui est rue Navier, dans le 17e, donc entre Guy Moquet et Porte de Saint-Ouen. Effectivement, beaucoup de nos des sections sont sur ce créneau grâce à l'aide de la ville de Paris et donc de la mairie du 17e.
Oui, parce qu'il y a des clubs qui malheureusement sont obligés de démultiplier sur tous les arrondissements de Paris. C'est pour ça que
non, nous on est assez centralisé. Après, on a comme chaque club de rugby parisien intramuros, on a c'est difficile au niveau des créneaux puisque les terrains de rugby à Paris sont pas légion, donc on fait ce qu'on peut, mais on est ancré dans le 17e.
Les couleurs de votre club, est-ce que vous avez un symbole des couleurs?
On a un maillot noir et blanc depuis depuis le début.
Les all white ou les all black?
Plutôt noir avec une rayure blanche horizontale et donc on a.
Non parce que c'est important hein, le symbole.
C'est très important et on voilà et en fait on a fait un travail aussi de sur l'écusson puisque pour qu'il soit commun à toutes les sections du SCUF, on l'a refait il y a 3 ans un arrondi en U avec un liseré doré pour rendre hommage au bouclier d'Aurélius.
Alors, si y a un effet mondial, vous pourriez encore accueillir du monde encore?
Actuellement, franchement, non. Ah, oui. Parce que
ça va être le problème. Ouais.
L'effet Coupe du Monde, en fait, il est ressenti en ce qui concerne le SCUF depuis 2-3 ans, notamment à cause des bons résultats de l'équipe de France, du travail de la Fédération et de M. Galtier. Et puis, bon, la Dupont-Mania, la Ntabenak-Mania, l'Aldrit-Mania, tout ça génère des passions, des commentaires sur le bord de terrain, des jeunes de 6-8 ans qui commentent les matchs, qui donnent leur avis. C'est impressionnant, ils sont déjà... Ils sont déjà touchés et un engouement incroyable. Donc depuis 2 saisons, là, on est vraiment au maximum. On a des listes d'attente. Sur certaines catégories,
Donc j'allais vous demander le prix d'une licence ou d'une cotisation. C'est important pour les parents. C'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine de venir cette année alors.
Non, c'est pas la peine.
Non, c'est pas la peine. Bon, bah. Vous travaillez en partenariat avec le Stade français. Vous avez des actions communes parce que vous êtes un club formateur. Vous l'avez dit.
On a des échanges sur effectivement des potentiels talents qui sont repérés par le Stade français.
Voilà, c'est ce que j'allais poser comme question. On sait qu'il y a des viviers des fois, des...
Voilà, et donc effectivement, qui sont repérés au cours de sélection, et donc effectivement, le Stade français, Julien ou ses équipes nous appellent pour voir si effectivement on pourrait pas effectivement organiser s'il y a un potentiel qui est repéré, puisque nous de toute façon le SCUF on est un club formateur, donc si jamais on a des joueurs qui sont repérés par un club tel que le Stade français ou même le PUC, on a eu il y a des joueurs maintenant là qui sont en train de réaliser des belles choses au PUC, deux divisions au-dessus de la nôtre, et puis effectivement quand le Stade français repère des joueurs, nous on va dire en accord avec les parents, et dire pas de souci, on est un club formateur. Donc après, le but, c'est de finir la formation, c'est-à-dire que c'est vraiment jusqu'en moins de 14 de parfaire leur formation en fonction du programme décidé par notre directeur technique, et puis après, ils vont là où ils le souhaitent.
Alors, l'autre, Julien, vous envoyez comme ça des... Je ne vais pas dire des espions, mais des sur le bord des terrains, comme ça, pour essayer de dénicher, comme ça se fait dans d'autres sports. Hein.
Oui, non. Alors,
non, mais je blague.
Non, non, ce n'est pas des espions, après. Non, mais c'est important, parce que moi, je quand même tire un grand coup de chapeau à l'ensemble des clubs parisiens, et au club de Julien et du SCUF aussi. Quand j'entends qu'on ne peut plus accueillir de jeunes à pratiquer le rugby, c'est vrai que c'est dur à entendre. Donc là, c'est vrai que, mais bon, depuis tout temps, ça a existé. C'est un terrain pour 600 licenciés. Donc là, organiser tout ça, c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, mais ils y arrivent. Nous, notre objectif en tant que responsable aussi de la formation au Stade français, c'est avoir un projet cohérent aussi pour le jeune. C'est vraiment que les clubs nous remontent en fait les joueurs qui sont identifiés potentiels. C'est pas d'aller les voir ou les chercher. La formation est bien faite dans les clubs parisiens et dans tous les clubs même franciliens. Ah oui. Et voilà, c'est avoir des échanges sur un parcours d'un jeune, sportivement très bien, mais aussi sur leur accompagnement scolaire. Et voilà, et ça se passe en bonne intelligence avec le club avec qui on a formé. C'est avoir aussi une culture aussi parisienne, avec des clubs parisiennes qui forment des bons jeunes. Ça doit venir au Stade français, ça vient au Stade français. Si ça n'a pas le niveau, ça revient vers le club formateur. C'est cet échange-là. Et que les jeunes n'arrêtent pas de jouer, et qu'ils continuent à jouer.
Mais donc, c'est cet échange qui est important. Ouais. On le voit entre vous, il y a de très bons rapports. Il n'y a pas de concurrence. Non, mais c'est vrai.
On ne joue pas dans la même division.
Je parle du PUC, je parle de... Voilà. Et ça veut dire que demain, vous ne pouvez pas accueillir des pratiquants, vous les envoyez dans le club du collègue.
On leur dit qu'on est... qu'il sera sur liste d'attente. Après, effectivement, il y a d'autres clubs tels que la SPTT. Voilà. Parce que nous, on est un club du Nord parisien. Stade français jusqu'à la SPTT, on est les seuls, je crois, à Paris. Après, il y a Neuilly ou il y a Clichy de l'autre côté, mais...
T'as le Red Star aussi.
Il y a le Red Star, mais c'est pareil. On passe le périph' et tout de suite, après, en termes de dessertes, de transport, ça devient un enjeu. Donc en fait ce qu'on fait, c'est que vu la situation, on est plutôt à évoquer la SPTT.
Est-ce que vous avez des actions dans le cadre de la vie sociale, comme ça se fait parfois beaucoup de clubs?
Effectivement, alors nous, on a une action principale dans le cadre de la vie sociale, c'est qu'on va faire des actions dans les écoles. Ouais. C'est notre moteur, et notamment dans des écoles des quartiers dits prioritaires de la ville, des quartiers populaires moins favorisés. Mais donc, on essaye de faire un maillage du 17e arrondissement en étant sur des établissements qui sont soit normaux, soit dans les QPV. Et aussi, on a des écoles dans le 9e arrondissement. On est plutôt sur le nord-ouest de Paris.
Et sinon, au niveau journée, il y a des grandes journées consacrées à votre club sur le rugby?
Au SCUF, il y a... Alors, on est On est tous la tête dans le guidon, ouais. On est tous concentrés. Il y a beaucoup de parents bénévoles qui ont des vies. Hein.
Bah oui.
Quand on voit ce qu'ils font à côté, c'est voilà, déjà quand, qu'ils soient avec nous et tout ce qu'ils font, c'est assez exceptionnel. Donc j'en profite pour les remercier du fond du cœur. Nous, il y a trois journées. Il y a la journée de rentrée des bénévoles qui est importante pour une soirée où on les invite et pour leur dire merci. Et qu'on se réunisse tous. Il y a la journée des huîtres qui est généralement oui, voilà.
Ah bon
ah oui, qui est
dans le rugby, les huîtres.
Et oui.
Remarquez, il y a les.
C'est une opportunité.
Charente, hein.
C'est une opportunité, mais ouais. Ça va être, je crois, la 25e année qu'on fait ça. Ouais. Et donc, c'est plutôt au mois de décembre, c'est sur le dernier match à domicile. Donc, voilà. On sort les assiettes d'huile, les charcuteries, etc. Le vin blanc, bien sûr. Et enfin, il y a la journée de la fête du club qui est à la fin de la saison. Et il y a un quatrième événement, mais qui est un an sur deux, puisque depuis 1905, avec le club de Stratford upon Avon, ville de William Shakespeare, on se dispute la Rose Cup.
Ah bien.
Donc qui est un trophée, qui est une coupe.
C'est presque une Ryder Cup.
Voilà. Ouais. Qui est un des plus vieux trophées franco-anglais. Ouais. Et donc une année sur deux, on va chez eux, ils viennent chez nous.
C'est
et
bien.
Voilà. Et donc c'est pas voilà. Les deux premières mi-temps sont extrêmement disputées et la troisième est disputée mais autrement.
Voilà, c'est ça. Bah.
Voilà.
Ça l'image
le rugby.
Et ça permet de célébrer l'amitié franco-anglaise.
Allez, la deuxième pause musicale avant la page basket et foot. You got the power, prenez le pouvoir. Et puis donc ensuite, on va retrouver notre ami Stéphane Dezenclos et puis Malik qui viendra nous donner le programme de Au bout du foot, l'émission qui va prolonger donc ensuite mon Paris Sport. Never been enough. KIFAN. Il est 20h, émission que vous pourrez naturellement réécouter sur le podcast. J'accueille mon ami Malik. Bonsoir Malik, ça va ?
Bonsoir Philippe. Hein,
au bout du foot, tu vas nous donner le programme de l'émission qui va suivre donc mon Paris Sport. Mais auparavant, hier tu étais sur le basket, il y avait une journée, une belle journée sur Paris entre les 20 km, la journée paralympique à laquelle nous étions. Et toi, tu as vu un match phare du championnat de France de basket.
Oui, et Paris Basket Club donc défait hein, avec méthode les métropolitains de Boulogne-le-Valois avec un score de 86 à 93. Je vais justement faire court, Philippe, oui, parce que derrière, il y a au bout du foot et puis tu continues ton émission. Donc en 4 points, comme je disais, donc Paris Basket a défait les Valoisiens, c'est bien comme ça qu'on dit.
C'était un derby. Hein.
À 93, un vrai derby. Et puis en deuxième point, il y a deux joueurs qui, moi, m'ont particulièrement marqué, Sébastien Herrera et Nadir Ifi. Ces deux-là, je ne sais pas si ils resteront longtemps encore dans ce championnat français de basketball, mais en tout cas, deux vraies pépites à suivre. Et puis en troisième point, en parallèle de ce match-là, il y a eu aussi l'annonce capitale où il a été annoncé la création de l'équipe féminine de basketball Paris Basket Club.
Ça, c'est une bonne nouvelle, ça.
Dès la saison prochaine, elles vont donc se mettre sur le terrain de basket. Et puis, hier aussi, l'Accor Arena a réuni quand même 6400 personnes. C'était vraiment beaucoup. J'ai été surpris du nombre de personnes. Donc, c'est vraiment un sport qui continue de grandir au niveau de la France. Après, pour revenir donc au sommaire de ce soir, au bout du foot, aujourd'hui, on va parler des coupes européennes. Comment se sont comportés nos différents clubs au niveau de l'Europe, Conference League, Europa League, et puis naturellement, la Ligue des Champions. Monaco en tête de la Ligue 1, est-ce que les hommes du Rocher pensent déjà au titre ? Là aussi, on va en parler. Le Real Madrid, Jude Bellingham, il est en train de défrayer la chronique en ce moment. Un milieu de terrain qui est buteur aujourd'hui, je crois qu'il est à 10 buts. Est-ce qu'il pense déjà à être Pichichi de cette Liga ? On en parle également dans Au bout du foot. L'équipe de France, tiens, Didier Deschamps, il a annoncé sa liste. On a su il y a quelques heures déjà qu'il y a pas mal de blessés.
Deux forfaits
aujourd'hui. Pour autant, est-ce que cette liste, elle est complète selon les experts d'Au bout du foot ? On en parlera également dans quelques instants. Championnat de MLS avec Lionel Messi qui y est. Aujourd'hui, Messi a été nominé parmi les joueurs de la saison à MLS. Est-ce que cela est véritablement justifié ou alors c'est simplement un coup de marketing ? Là aussi, on va en parler. Et puis enfin, la chronique « Quel choix pour quel résultat ?» À 3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, est-ce que ce pays est prêt en définitive ? Quels sont les favoris pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ? Depuis Abidjan, on va recevoir le journaliste Magat, donc, qui est sur la radio-diffusion-télévision ivoirienne, 3e chaîne. Donc, on va en parler, c'est dans quelques instants, dans la foulée.
Ouais, dans la foulée, 20h30, donc le regard du foot, j'allais dire, d'une autre façon. Voilà, justement, le foot, Stéphane, on va revenir sur cette Coupe d'Europe. Je voulais simplement d'abord dire que, effectivement, Maïd disait, Paris sont deuxième pour l'instant en basket, juste avec Bourg-en-Brest. Hein, 83,3% de victoire. C'est Monaco qui est en tête. Alors ça tombe bien, parce que Monaco sont en tête au basket et puis au foot, on en parlera tout à l'heure. Bon, la Coupe d'Europe, ça mène mitigé, hein. La déroute pour le Paris Saint-Germain, humilié, j'allais dire, à Newcastle 4-1. Et puis la grosse surprise, c'est Lens qui va donc à domicile battre Arsenal 2-1. Ça, c'est pour la Ligue des Champions.
C'est un peu la bascule entre une semaine correcte, on va
Alors,
dire.
Deux victoires, deux nuls et deux défaites. Voilà. Hein. Donc bilan mitigé pour l'indice UEFA.
Normalement, la logique, en tout cas des statuts, des favoris auraient mérité que le Paris Saint-Germain l'emporte. Alors c'est eux qui ont gâché un peu ce bilan qui n'est pas si mauvais avec un exploit incroyable quand même si le Paris Saint-Germain est à son niveau, le bilan est pas mauvais.
Oui, ça fait 3
mais il est quand même pas mauvais en sachant que Rennes joue à Villarreal et puis donc c'est pas mauvais et Marseille n'était pas en très grande forme ces dernières semaines, mais avec un exploit surtout
mais pour la Ligue des Champions, donc, effectivement, Lens était incroyable, mais bon.
C'est la magie du foot, quoi. Ah, oui. Pour moi, je vois autant. Il n'y a pas le même écart, bien sûr, entre Lens et Arsenal qu'il y avait entre le Paris Saint-Germain et Newcastle. Mais les deux, pour moi, c'est les deux petites bombes sur ce tour-là, quoi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, même dans le milieu du foot, hein. Je parle des entraîneurs, des joueurs, des groupes et tout ça qui participent à cette Ligue des Champions qui auraient parié sur ces deux résultats. Donc c'est ce qui a un peu bousculé. Maintenant, on le savait, on l'avait dit Philippe, hein, ça va pas durer, hein, donc c'est déjà...
Non, mais ils sont en tête, Lens, hein, pour l'instant.
Il y a quand même deux grosses contre-performances, ouais. C'est Paris Saint-Germain et quand même Rennes.
Surtout l'écart et la façon... Non, mais on va en parler de
Rennes. Non, mais Rennes, c'est aussi dans ce bilan européen, il y a ces deux contre-performances.
Alors, Rennes battu à Villarreal 1-0, par contre, Toulouse a battu Lille 1-0, et puis Marseille qui fait nul contre Brighton, de partout, qui mène 2-0, puis qui se fait reprendre.
Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Enfin, donc, voilà, bon.
Mais toutes les équipes sont deuxièmes de leur poule pour l'instant. Ouais. Donc, elles passeraient le deuxième tour.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais bon, on n'a joué que deux matchs. Hein,
Oui. Bon, la déroute du PSG, on peut l'expliquer comment? Paris a été inexistant dans
tous les... Pour moi, elle est inexplicable. Parce que c'est vrai qu'on lit partout et moi je
c'est pas la défaite qui est...
Non, la déroute, la claque, l'humiliation, l'humiliation, parce que même si t'encaisses pas ce dernier but dans les arrêts de jeu, même à 3-1, le score, à la limite, on s'en fiche, quoi, c'est ce qu'on a vu sur le terrain, quoi, c'est lamentable, c'est grave.
C'est le choix tactique des...
Moi, je pense pas. Moi, je pense absolument pas que ça soit le choix tactique de Henrique. Ce que dit tout le monde, c'est la chose facile à dire. Pour moi, c'est le niveau des joueurs sur ce match. Hein. Mmh. Sur ce match, le niveau des joueurs qui était affligeant, quoi. Je veux dire. Alors après, on peut analyser comme on veut. Au bout de 10 minutes, ou je sais pas combien de temps exactement, une relance. Plein axe, pied gauche, pas assuré du tout de Marquinhos, c'est hallucinant de faire quelque chose comme ça. Alors après, on pourra toujours débattre, mais il n'avait pas de possibilité, il y avait moins de monde au milieu, il y avait moins de ceci, moins de cela. Mais bon, t'as pas le droit de faire ça, quoi. T'as pas le droit. Et après, de toute façon, tout le monde a plongé pareil. Il y a quasiment aucun joueur, qui a été à ce niveau. Moi, je le vois plus là. Après, mon avis, hein, c'est que, effectivement, il y a peut-être probablement pour d'autres matchs et tout des réajustements tactiques à faire dans cette équipe là avec le fameux 4-2-4, mais qui n'est que ce qu'il est sur le papier, hein, parce qu'après sur le terrain on l'a vu, hein, Rennes, même si c'est Rennes, c'est pas Newcastle, mais encore bon, j'ai pas vu un énorme Newcastle du tout, pas plus que j'ai vu un énorme Rennes. C'est un 4-2-4 aussi, hein, seulement c'est des joueurs différents, et puis c'est une attitude des joueurs un petit peu différente aussi. Donc voilà, moi c'est comme ça que je pense qu'il faut l'expliquer. Une déroute, un accident, on en saura plus après les prochains
matchs. Pour l'instant, Paris est encore deuxième de son groupe.
Tout à fait. Et puis
Il y a Newcastle 4 points, Paris 3 points, et le Milan AC 2 points, puis Dortmund dernier point.
Voilà, donc là, jouer clairement dans les 15 prochains, deux prochaines confrontations avec le match aller-retour contre Lyon. Et moi, je maintiens ce qu'on avait dit dans l'émission Au bout du foot, là, avec Malik. Que c'est Milan et Paris Saint-Germain qui vont passer, que Newcastle passera pas.
Il reste encore 4 journées. Un petit mot aussi sur la Ligue Europa, 0-0 pour Lille contre une équipe des îles Ferroé quand même. Hein.
Donc, Ligue Europa conférence, c'est grave, mais bon. Conférence.
Comme quoi c'est mitigé quand même.
Oui, si on veut, mais il y a certaines valeurs, je pense, qu'on ne peut pas négliger. Et donc, Paulo Fonseca avait fait quand même beaucoup tourner son équipe par rapport au derby contre Lens qui allait arriver. Donc bon, c'est vrai que on peut dire facilement, même avec des remplaçants ou une équipe B entre guillemets ou A prime, ça devait gagner ce match-là, quoi. C'est évident. Moi, j'ai été déçu d'ailleurs depuis le début de saison, en règle générale, je suis très déçu par l'équipe de Rennes par rapport à ce que au potentiel que je lui que
battu
je lui
battu 1-0 à Villarreal.
Voilà. Ouais. Bon, il y a eu ce petit penalty raté par Martin Terrier à la dernière minute ou même dans les arrêts de jeu. Donc c'est peut-être que le match nul aurait été plus logique, quoi.
Et juste un petit mot sur Marseille qui menait, qui s'est fait une nouvelle fois reprendre. Deuxième match nul pour Marseille dans cette Ligue Europa après le 3-3 contre Ajax.
Voilà, tout à fait. Mais c'est pas...
C'est 2-2 contre Brighton.
Et c'est pas les mêmes matchs. Et puis c'est Brighton, faut quand même souligner que Brighton, c'est vrai que Brighton, en tout cas en première mi-temps, n'a pas du tout donné l'impression... une très très belle impression, quoi. Moi j'étais un peu surpris et déçu, mais c'est une très très bonne équipe, quoi. C'est une très très bonne équipe, hein, qui a fait qui a tenu en échec Liverpool là pour le ce week-end là, et qui est vraiment une très très belle équipe. Donc c'est moi je pense que c'est quand même un bon résultat pour l'OM, quoi. Bon, par rapport au scénario du match, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dommage, mais bon, je pense sincèrement, on jouait un quart d'heure de plus, je pense qu'ils allaient reprendre un but. Donc je pense que c'est un bon résultat.
Donc c'est la parité aussi pour les matchs France-Angleterre, ouais. Une victoire, un nul, une défaite, hein. Donc ouais, ça est tranquille, ouais,
tout à, hein. Voilà. Fait, ouais.
Allez, la Ligue 1, donc c'était 8e journée, il y a eu beaucoup de victoires à l'extérieur quand même. Nantes qui va gagner donc à Strasbourg 2-1, Nice qui bat Metz 1-0, Monaco, on en parlait pour le basket, donc ils sont aussi en tête du foot, ils ont gagné à Reims 3-1, et victoire donc du PSG, on en parlait, face à Rennes 3-1, pardon. Sinon, victoire de Marseille devant le Havre 3-0, nul entre Lyon et Lorient 3-3, donc Lyon qui n'y arrive toujours pas, et nul aussi dans le derby du Nord entre Lens et Lille. Et puis il faut dire, Stéphane, un match arrêté à cause d'un abruti, il n'y a pas d'autre mot, ouais, Montpellier-Clermont.
Ouais, alors ça, voilà. Justement, je pense, ouais, qu'on ne va pas manquer de... Ouais. Ouais, non, il n'y a pas de mots pour dire ça, ouais. Si ce n'est que malheureusement, est-ce que ça ne reflète pas aussi...
un pétard sur le gardien, ouais. Clermontois.
Est-ce, ouais, que ça ne reflète pas aussi... ce qui se passe, je ne sais pas si c'est un cas un peu isolé, mais ça, ce qui se passe un peu, c'est-à-dire que les supporters, en règle générale, vous regardez les dernières années, les supporters se croient tout permis, croient que le club leur appartient. Bon, là, je pense que c'est vraiment...
C'était un des débats de l'émission de Malik. Hein.
S'il y avait eu le match à l'avantage de Clermont sur le score, on aurait pu penser un peu...
Ça aurait été un peu ce que... Il y avait
4-2. Il y avait 4-2 pour Montpellier. Mais donc, c'est un cas isolé, mais quelque part, même s'il y a un cas isolé... ça reflète un peu. Il y a deux ans, c'était Saint-Étienne qui a pris trois matchs de pénalité parce que les supporters, on est agacés parce que c'est là.
Ça, mais ils descendaient, c'était pour la descente. Là, c'est un match d'une journée
là,
classique.
Il y a eu Bordeaux, l'affaire Bordeaux-Rodez, et puis j'en passe et des autres. Marseille-Nice, des choses comme ça. C'est vrai que c'est incroyable, quoi. Il n'y a plus aucun respect, aucune distance entre le supporter et l'équipe. Ça fait que un, quoi, en fait.
Julien, vous, l'homme du rugby, vous aimez le foot ?
Ah, bien sûr, moi, j'ai commencé par le foot. Mon idole, d'accord, absolue, c'est Michel Platini. Ah, donc, voilà. Donc,
idole de beaucoup.
Non, je suis... Ouais. Oui,
bon. Et les débordements qu'il y a comme ça dans le foot par rapport au ballon ovale, vous parliez de la convivialité pour le rugby.
Ah non, rugby,
il y a la convivialité, non, mais je veux dire... Non, voilà, justement, quoi. Vous en parliez par rapport au foot, ça doit vous interpeller quand même.
Ben, c'est pas la même mentalité, j'ai envie de dire. Donc,
c'est parce que le foot est plus universel, plus grand pour ça, non ?
Non, je sais pas, c'est peut-être les environnements, les personnes qui y jouent, la culture et l'encadrement surtout. Enfin, je veux dire, on voit que au rugby, on respecte l'arbitre et que malheureusement, les footballeurs, ils s'autorisent à faire des choses que les rugbyman ne font pas. Et
c'est
aussi,
vrai,
j'ai envie de dire.
C'est vrai, beaucoup de contestations, on reculerait, ce serait pas.
Mais j'ai envie de dire aussi que les autorités du foot devraient avoir le courage de revenir en arrière, parce qu'ils ont laissé la porte ouverte à des attitudes. Et on voit que mon fils, il joue au foot, lui, par exemple. Après avoir joué au rugby, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à le garder dans l'Ovalie. Et les gamins reproduisent. Donc, c'est dur.
Bon, Julien, vous, l'éducateur de rugby ?
Oui, non, c'est affligeant. Ouais. C'est affligeant. Ouais, c'est vrai que quelle image. Ouais. On monte. Donc
François,
c'est...
Non. En plus, l'exemple n'est pas donné par la FIFA.
Bah oui.
Quand on voit la Coupe du Monde qui va se dérouler
sur
trois continents.
Alors tiens, justement, trois continents, c'est bien pour fêter les 100 ans de la Coupe du Monde, ou alors c'est à contre-courant de l'époque.
Non, mais c'est surtout
pour le football, c'est bien, peut-être pour l'époque, c'est peut-être moins bien, quoi. Trois continents.
Quoi en dire aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de détails, mais c'est vrai que ça paraît complètement...
Ah si, c'est sûr. Hein.
Non, mais on n'a pas de détails sur l'organisation.
Trois matchs.
Ils vont
cérémonie
nous dire
d'ouverture
les trois
aussi.
Matchs, ils ont lieu...
Les trois premiers matchs.
Ouais, mais d'accord, mais on n'en sait rien. Moi, j'ai essayé de me renseigner. On n'a pas encore plus d'informations, parce que, par exemple, une équipe qui va jouer... un jour en Uruguay, par exemple, ne peut pas jouer 5 jours après en Espagne. son deuxième match. On est d'accord, j'sais avec pas. Le décalage horaire, avec bah, toutes ces choses-là. Problème. Et bien justement, mais c'est pour ça que pour l'instant, on ne sait pas. Et est-ce qu'ils ne vont pas nous sortir un truc genre les trois matchs ont lieu 15 jours avant, j'en sais rien, je ne sais pas quoi. Et puis comme dit notamment, comme l'a expliqué notamment Didier Deschamps, pour l'éthique, quoi, ça veut dire qu'effectivement, ils ne vont pas faire jouer Roumanie contre la République tchèque à Montevideo.
Et j'ai même lu que la cérémonie d'ouverture, elle aura lieu justement à Montevideo.
Ouais, ça c'est différent. Là, tu rentres pas trop dans le sport, tu rentres dans l'anniversaire.
Pour le foot, c'est pas très important.
Mais faire jouer à ce moment-là, on fait jouer la France, on lui fait jouer ses premiers matchs à Paris ou à Marseille. Et puis, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je sais, moi, j'avoue, pour l'instant, je suis sidéré, effectivement. Je suis sidéré, je ne vois pas comment ils vont transformer ça en pratique.
Non, mais la logique aurait voulu qu'ils fassent la Coupe du Monde, Uruguay, éventuellement aussi avec l'Argentine, qui est un pays relativement proche. L'Uruguay, c'était la première Coupe du Monde.
Donc oui, c'est pour ça, il y a ce symbole-là. Quoi.
Voilà, on peut le comprendre, mais pour que Seb Blatter se soit offusqué de cette désignation, bon, c'est vrai qu'il est un contentieux avec le président, c'est le moins qu'on puisse dire, de la FIFA, mais bon, on marche sur la tête. Je trouve que le football, en ce moment, marche sur la tête.
Bah, ça fait un moment. Hein. Ça fait un moment.
Ça fait un moment, ouais. Mais...
Allez, Stéphane, la Ligue 2, on va revenir au terrain. Donc, toujours Laval hein, qui est en tête. On va quand même rappeler que Bordeaux a été une nouvelle fois battu à domicile, 1-0. Donc, ça a valu donc, à Bordeaux la mise à l'écart de son entraîneur. Le PFC, voilà, qu'on suit, battu aussi, 2-0 face à Auxerre. Saint-Etienne, Ajaccio, 0-0. Et Concarneau gagne, François, 4-3, même son terrain. Concarneau remonte et finalement ils évitent la zone de relégation. Laval est en tête avec 25 points devant Auxerre 21, Angers Grenoble 3e 20 points, Saint-Etienne est également 5e 20 points et le Paris FC 17e avec Valenciennes 7 points et 19e donc Quevilly, Rouen et Dunkerque 6 points. Mais Concarneau remonte sans terrain quand même. Hein.
Ouais, mais avec certainement, avec surtout en étant
sans terrain.
C'est la première fois, je crois, de leur histoire, hein, qui joue en Ligue 2. Mais ça, on en a déjà parlé. Oui. La Ligue 2, c'est un championnat qui est complètement fou. C'est celui qui peut dire. Bon, moi, j'avais mes deux favoris en début de saison. Il y en a un qui a déjà pris du retard, c'est Caen. C'était Auxerre et Caen.
Oui.
Auxerre qui gagne à... ils ont gagné où on a dit
à Paris. Ouais, à Paris. Charlie, 2-0.
Bah, c'est normal. Auxerre, c'est gros, c'est fort. Quoi. C'est très fort. Auxerre, je les ai vus. J'ai été à Auxerre il y a 15 jours contre Rodez. J'avais vu le match. Auxerre, c'est vraiment très fort. Quoi. Mm-hmm. Donc, puis Pélissier, c'est de quoi il parle quand même. C'est très fort. Puis bon, on le disait... enfin, si on l'a déjà dit ici, on en parlait. Et Laval, c'est un entraîneur.
C'est la bonne surprise de ce début de saison.
Voilà,
en Ligue 2.
C'est une leçon pour le monde du foot. Ouais. L'année dernière, Laval était à la trêve hivernale, il devait être 7e ou 8e. Après, ils ont fait une douzaine de défaites. Bon, je sais pas, entre 10 et 12 défaites. Ils se sont sauvés à la dernière seconde du championnat l'année dernière. Mais quand ils ont fait ces 12 défaites, Le président de Laval n'a pas changé d'entraîneur. Alors, peut-être c'était pour une question de budget et tout, je ne sais pas, mais en tout cas, ils n'ont pas changé d'entraîneur. Ils ont gardé le même entraîneur. Ils se sont sauvés à la dernière seconde. C'était quasiment un miracle, quoi. Hein. Vraiment la dernière seconde. Et puis aujourd'hui, tout marche bien. Tu sens, tu vois les matchs, hein, tu sens que c'est une équipe athlétique, bien positionnée, très collective, très puissante et qui dégage effectivement une force collective. T'as l'impression que ce qu'ils ont vécu l'année dernière, rien peut leur arriver. Alors, est-ce qu'ils vont tenir jusqu'au bout? Je ne sais pas. En tout cas, en tête, en tout cas. Maintenant, après, là, on a le retour des barrages.
Hein. C'est un parcours un petit...
Ce qui est bien, c'est que Laval, qui est un des clubs les plus fair-play,
accueille
des supporters adverses, bienvenue à Laval, etc. Je trouve que c'est très sympathique que ce club-là performe aussi sur le plan sportif.
Mais il y a beaucoup. C'est une chose qui est à souligner, c'est qu'il y a quand même beaucoup ça en Ligue 2. Alors, est-ce que la Ligue 2 se supplée à la Ligue 1? Mais il y a effectivement beaucoup de clubs comme ça. C'est vrai qu'il y a une ambiance complètement... c'est complètement différent. Je dis, moi, j'étais... à Auxerre, c'est assez sidérant, quoi. Il n'y a pas toutes les deux secondes quelqu'un qui vous dit pas bonjour, bienvenue. Alors j'étais plutôt du côté de Rodez, parce que je connaissais des gens quand j'étais invité par là-bas, mais en tout cas on sent vraiment, on espère que vous avez passé une bonne soirée ou que vous allez passer, parce que après c'est plus facile. À Rodez, je sais aussi, c'est exactement la même chose. Il y a une certaine humilité peut-être du foot, et c'est pourtant des stades de plus en plus remplis aussi, hein, qui ont de plus en plus de monde dans les stades. Et en tout cas, c'est vrai que ce qui arrive à Laval, je pense, c'est une super bonne chose pour le foot.
Alors, on n'avait pas rappelé le classement de la Ligue 1, mais on va rappeler que Brest a un début un petit peu similaire. Ils sont troisième avec le Paris Saint-Germain, 15 points. Juste un point de Nice, deuxième avec 16 points. Et Monaco, donc, en tête, 17 points. Voilà,
tout à fait.
Et puis, donc, Marseille, sixième avec Lille, 12 points. Et puis, Lorient, là, par contre, ça va être plus compliqué. 16e avec 7 points. Lyon, on en a parlé la semaine dernière, donc 17e, 3 points, et 18e et dernier, Clermont, 2 points. Voilà. Mais ça fait partie de ces petites équipes, un peu Brest.
Ça va être moins compliqué quand même, je pense. Bon, il y a 4 descentes, donc il y en a forcément qui ne vont peut-être pas mériter franchement, et tout, mais ça va être moins compliqué, je pense, pour Lorient et Clermont que pour Lyon.
Ouais. Les clubs franciliens, donc en national, 9e journée, le Restart qui bat Villefranche 2-0.
Qui a déjà combien?
Oui, alors justement, ils ont 7 points d'avance déjà.
Non, mais oui, mais d'accord.
Et puis Versailles, donc ils s'impose devant Cholet 3-2, ils ont 7 points d'avance.
Ouais, mais les deux premiers montent direct, donc ils ont combien sur le troisième? Ils ont plus de 10 points.
Oui, troisième.
Alors maintenant, c'est vrai que.
Donc Restart 24 points, et Niort 17 points. Par contre, Versailles est en milieu de tableau, avec donc 13 points avec Martigues. Et puis Sochaux quand même, 10e avec Châteauroux, mais un match en moins pour Sochaux. C'est bien Sochaux quand même. Ils ont bien remonté.
De toute façon, ils savent que ça va être. Ils se sont préparés à jouer le. Je pense que pour Sochaux, ça va plus se jouer en fin de saison, ça va plus se jouer les bureaux de la DNCG que sur le terrain. Parce qu'ils ne sont pas sortis d'affaires, hein, à mon avis. Financièrement, ils ne sont pas sortis d'affaires. Quoi. Mais c'est vrai que c'est bien, surtout si jamais...
D'où ils reviennent et la façon dont ils ont abordé le championnat, quand même, psychologiquement...
Tout à fait.
Ouais. Bon, les féminines, troisième journée. Donc là, les clubs parisiens, ça va très bien. Le PSG a gagné à Saint-Etienne 1-0. Le Paris FC, ça va mieux que l'équipe senior, eh bien, a gagné au Havre 4-1. Et victoire de Lyon devant Bordeaux 4-0. Donc pour l'instant, c'est le Paris FC qui est en tête 9 points. Et Lyon est quatrième à égalité avec le PSG 6 points. Mmh. Voilà, donc ça va mieux pour les féminines quand même.
Lyon avec 6 points.
Lyon avec 6 points, avec le PSG, ça fait. C'est la troisième journée.
Ils ont perdu une journée.
Là, ils ont gagné contre Bordeaux.
Non, mais depuis le début de saison.
Ah, bah oui, je pense qu'ils ont dû perdre.
Ah, je crois pas, non. À mon avis, il doit y avoir un bin.
Bah, ils ont 6 points. Ils ont 6 points.
Bah, parce qu'ils ont un match en moins. Troisième journée. Parce qu'ils n'ont pas perdu, je pense.
Ils ont gagné au parc contre le PSG.
Ils ont gagné au parc contre le PSG. Ils n'ont pas perdu de match, je pense, Lyon. Donc, où ils ont un match en moins. Où ils ont gagné, ils ont peut-être battu à la différence de but, parce que je crois que le Paris FC a cartonné.
On va vérifier.
Un ou deux matchs, quoi. Donc,
voilà. Et puis un petit mot pour donc, la sixième journée de National 2. L'Atlético a été battu par le leader, La Roche-sur-Yon, 1-0. Ce qui fait que l'Atlético, ils sont en milieu de tableau. Ils sont quatrième avec Angoulême, Romorantin et les Herbiers avec 10 points, à 4 points du leader, donc La Roche-sur-Yon.
Ouais, ça va être dur. De toute façon, c'est des championnats qui sont très difficiles. Hein. Mm-hmm. Très difficiles, avec une seule montée par groupe.
Ouais.
C'est compliqué là.
Mm-hmm. Oui.
Lyon, ils sont premiers, 9 points.
Ah, bah alors, donc ça veut dire que le classement n'était pas à jour alors. C'était pas à jour.
Paris FC, Lyon, 9 points.
Voilà, c'est ça. Donc ça ne devait pas être à jour.
Autant
pour moi. C'est bien. Merci d'avoir rectifié. Ouais. Donc Paris FC et Lyon avec 9 points. Donc ils ont gagné les 3 matchs, c'est ça. Ouais. Voilà. 3 points. Julien, donc un petit mot. Vous suivez les équipes de foot aussi parisiennes?
Pas trop. On est assez occupé par le rugby, donc j'avoue que j'ai pas trop le temps de regarder tout ça.
D'accord. Bah écoutez, je vais vous donner les résultats des 20 km de Paris. Vous savez que votre ami Pierre Abadan, il était donc aux 20 km de Paris. Il a assez souffert. C'était la 45e édition. Il y a eu donc 25 000 coureurs qui se sont donc élancés au pied de la Tour Eiffel, 45e édition, donc j'ai dit. C'est un Kenyan, Chris Chebor Tabara, qui s'est imposé en 57 minutes 32 secondes devant Assam Chadli. un Français, et Sondre Nastase Moem, le Norvégien. Et puis, moins de deux heures quand même hein, pour Pierre Abadon. Donc, c'est pas mal quand même.
Ouais, il a encore la forme.
Ouais,
encore
ça va.
Et
ça
noté
va.
Aussi un record du monde, ouais. Je crois, au marathon, non?
Oui, oui, oui.
Ça, c'est
oui,
tombé
oui,
il n'y a pas longtemps.
Oui, oui, ça, c'était à Chicago. Et chez les femmes, eh ben, c'est une Kenyon. Donc, Gladys chez Yemo, donc la Kenyon, qui s'est imposée en 1h, 4 minutes, 30 secondes. On a battu quand même le record sur ces 20 km de Paris, devant donc Mekek Voldu, la française, et Anaïs Kemener, la deuxième française, en 1h, 6 minutes et 59 secondes. Voilà. Et
une petite oui. précision sur ce qu'on parlait tout à l'heure de l'équipe de France.
Oui, justement, j'allais ouais. en parler là. Il donc, reste 2-3
voilà,
minutes.
Donc il y avait donc les forfaits de. Oui. Upamecano et après Saliba hier, c'était Upamecano et un autre aujourd'hui. Et il y en a eu un autre encore là, il y a à peu près une demi-heure, qui a été annoncé. C'est Dizazi qui est venu
oui,
pour remplacer Uba et puis il est reparti. Mm-hmm. Et donc il a appelé Luqueba.
D'accord. Alors il faut être en bleu cette semaine entre le 15 de France, donc dimanche, et puis l'équipe de France de foot vendredi Amsterdam. On sait que l'équipe de France est pratiquement qualifiée. Stéphane, comment on aborde malgré tout ces matchs?
Oh bah, ils vont les aborder ouais. de toute façon avec sérieux et rigueur. Maintenant, c'est vrai que l'équipe de France, ça va pas jouer. La qualification, elle va pas jouer aux
Pays-Bas. Elle est pratiquement acquise. Hein.
En gros, il faudrait, si on regarde tout, il faudrait une victoire de l'équipe de France, en sachant que dans le prochain rendez-vous, je crois, ou je sais pas quand, au mois de novembre, la France reçoit Gibraltar. Donc gros, il suffirait
acquise,
ça.
Hein.
Ouais. Il faudrait vraiment que la Grèce, quoi. Bon, ça serait un concours de circonstances incroyable et tout. Mais ça peut se faire dès le week-end prochain, si par exemple la France gagne aux Pays-Bas avec la ouais. Grèce qui joue quand même en Irlande,
ouais.
ne bat pas l'Irlande, et ben la France elle sera qualifiée dès cette journée-là, quoi. Donc ouais. Voilà. ça va être tranquille. Et tous ces remplaçants, ça sera l'occasion. Gusto, Luqueba, même Todibo, ça va être l'occasion peut-être de les voir. De les voir contre l'Écosse, quoi. Mmh. Ça, c'est dommage, Upamecano, c'est dommage qu'il soit forfait encore.
Merci Stéphane. Donc le quotidien du sport, hein, et puis il prolonge avec notre ami Malik. On va finir, donc il nous reste une petite minute. Merci en tout cas, Julien.
Merci beaucoup.
Pour le SCUF.
Merci ouais. pour votre accueil.
Salut Julien, rendez-vous la semaine prochaine. Hein.
Et puis surtout dimanche soir.
Ouais, il y aura un
grand devant les écrans.
On pourra en parler lundi, tout en bleu, je l'ai dit. François, dernier petit mot.
Alors, dernier petit mot, moi ouais. je trouve un peu dommage que la fédération de football hein, ouais. ait favorisé l'Euro par rapport aux Jeux Olympiques qui se déroulent à Paris.
C'est-à-dire
que la priorité, la fédération a déclaré que la priorité pour les Bleus
ah,
en 2024
c'est de jouer l'Euro et pas les Jeux Olympiques.
Soit l'Euro par rapport aux Jeux Olympiques. C'est ouais. un avis personnel, hein, je trouve ouais. ça un peu dommage.
Ouais, mais, parce que je suis d'accord avec vous, alors là, ça peut être un long débat, mais pour moi, c'est absolument pas les mêmes équipes qui participent. Et après, il y a le débat de savoir ouais. pourquoi les ouais. plus de 3 joueurs de plus de 23 ans ont le droit de jouer les Jeux. Ouais.
Bon, bah, on verra en tout cas, ça sera peut-être un des thèmes de l'émission de Malik que je vous propose maintenant de retrouver donc, au bout du foot. Bonne soirée, merci à Jason pour la mise en route technique de cette émission. On vous laisse avec Malik et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut, bonne soirée. Difficult.